d'alarme pour pouvoir donc anticiper autant que possible les conséquences néfastes de cette troisième vague-là. C'est une vague qui est arrivée beaucoup plus rapidement que les deux premières vagues, qui aujourd'hui a dépassé même la hauteur donc, de la deuxième vague que nous avions vue au mois de janvier dernier dans la plupart de nos pays. Donc vraiment tout porte à croire que le degré d'avancée de la maladie, d'affection des personnes par cette maladie-là, par ce variant-là, est beaucoup plus grave par rapport à ce que nous avions constaté auparavant. Donc je pense qu'il est absolument important de pouvoir prendre toutes les mesures idoines aujourd'hui pour pouvoir renforcer donc les capacités de réponse qui incluent évidemment toutes ces mesures que vous avez évoquées dans votre sujet, donc la vaccination, mais aussi les autres mesures de santé publique.
D'accord. Alors, docteur Sana Konaté, on savait déjà que plusieurs variants étaient actifs sur le continent, mais pourquoi Delta devrait nous inquiéter, notamment en Afrique?
D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, Arthur. Delta, en fait, c'est la dernière entrée dans la liste des déjà variantes existantes. On avait Alpha, Beta, Gamma, et voilà Delta. Et donc, on voit que les scientifiques ont déjà pu démontrer que Delta est environ 50% plus virulente que les souches précédentes. Et aussi... La sévérité aussi des symptômes aussi que Delta aussi représente, et aussi la crainte du fait que Delta puisse amenuiser les bienfaits, l'efficacité de la vaccination. Nous avons vu déjà en Inde ce qui s'est passé. Nous avons vu la vague vraiment, vraiment catastrophique en Inde qui a causé une multitude de décès, des symptômes très, très graves, des pénuries d'oxygène. Et donc, je crois que c'est pour ça que Delta inquiète quelque part. Delta inquiète aussi pour la manière de manifestation, comme le docteur Badé l'a dit il y a si peu. Cette troisième vague a été vraiment violente, soudaine, et donc en plein milieu d'une certaine relaxation, voilà, on est confronté à cette vague. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment inquiet. Et voilà.
Tout à fait. Alors, justement, docteur Mbaga, le docteur Konaté évoquait un peu plus tôt le cas de l'Inde, mais si le variant Delta devient dominant en Afrique, cela ne risque-t-il pas de remettre en cause les efforts de vaccination, puisqu'on ne connaît pas vraiment le niveau d'efficacité des vaccins par rapport à ce variant?
Oui, oui. Je voulais juste repréciser que la virulence du variant Delta est liée principalement à trois choses. Et ces choses-là, nous savions un tout petit peu que ça allait arriver. La première, c'est le relâchement, comme les collègues l'ont dit, des mesures de distanciation sociale qui s'est reproduit un peu partout, y compris en Afrique. Ça fait que la contagiosité, quel que soit le variant d'ailleurs, est beaucoup plus augmentée. La deuxième chose, c'est que vous savez, le système de reporting de données et de testing s'améliore au fur et à mesure du temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des systèmes de reporting des données qui sont beaucoup plus fiables, qu'on enregistre. Plus la learning curve a augmenté, et puis là on reporte beaucoup plus et on teste beaucoup plus qu'avant. Maintenant, en ce qui concerne la virulence, c'est bien sûr que le variant est plus virulent, parce que comme vous le savez, le virus s'adapte et fait des mutations, et ces mutations, quand ça revient beaucoup plus violemment. Maintenant, quant à savoir si ça va complètement mettre à mal les efforts de la vaccination, je dirais on ne peut pas encore être péremptoire sur le cas. Nous allons peut-être prendre l'exemple d'Israël, qui est un pays qui s'est vacciné très tôt et a atteint très tôt un taux élevé de vaccination, qui a fait une petite étude récemment par son ministère de la Santé montrant l'efficacité, voulant prouver l'efficacité du vaccin de Pfizer sur le variant Delta. Et cette étude y revient certainement que le vaccin n'empêche pas la contamination et n'empêcherait que de 64% pour la contamination. Et ça, c'était connu parce qu'on le dit, ceux qui sont vaccinés peuvent toujours contracter le virus et le transmettre. D'accord. 64% pour la contamination. Et 94% réduisaient le taux de maladies graves. Donc, ça veut déjà dire que pour ce variant Delta, par rapport au vaccin Pfizer, qui a été fait en Inde, je vous répète encore, l'Inde, c'est l'un des pays qui a commencé tôt. Donc, c'est un cas d'étude qui peut nous aider à anticiper. Nous voyons donc que les vaccins ont un effet diminué, mais ça ne justifie pas que les gens ne se vaccinent pas parce que, quand même, ça réduit le taux de maladies graves.
D'accord. Docteur Thierno Baldé, 64% même, déjà, ce n'est pas mal du tout, n'est-ce pas? Alors, d'un côté, il y a un problème d'accès aux vaccins, malgré l'initiative COVAX, mais de l'autre, beaucoup sont hésitants à se faire vacciner. Alors, pourquoi plaider pour plus de vaccins alors que dans certains pays, on court le risque de voir des milliers de doses jetées à la poubelle, faute de candidats?
Oui, ben, il faut se dire quand même que quand même il y a eu un fort taux d'utilisation hein, des vaccins qui sont disponibles. Mmh. Actuellement, depuis le début de la campagne de vaccination en Afrique, où on a reçu près de 60 millions de doses, environ 50 millions ont déjà été administrés. Donc oui, il y a ce phénomène-là, un peu d'hésitation, de réticence un peu des communautés. Mais ce qu'à cela nous tient quand même, on se rend compte que tous les vaccins, pratiquement une grande proportion des vaccins qui ont été mis à disposition des États membres ici en Afrique ont été utilisés. Donc ça, je crois qu'il y a lieu de pouvoir continuer donc, le travail vraiment de procurement et puis d'acquisition donc, de ces vaccins-là via les différentes initiatives qui sont là, que ce soit l'initiative COVAX ici ou encore l'initiative AVAT qui a été mise en place par l'Union africaine et l'autre par le système des Nations unies avec donc, le support de l'Organisation mondiale de la santé. Et si vous me permettez un peu, peut-être pour aller un peu plus de l'avant, c'est vrai qu'on a eu des défis importants avec notamment l'arrêt de la production des vaccins par le Serum Institute of India au mois de juin, mais là on voit quand même quelques avancées importantes là. Par exemple, au cours des deux dernières semaines, il y a eu environ 1,6 million de doses de vaccins qui ont été donc acquis dans la région africaine ici pour une distribution, et il y a environ une vingtaine de millions encore de doses donc, qui sont espérées à travers donc, l'offre du gouvernement américain ici là, avec donc en coordination avec l'Union africaine et l'Organisation mondiale de la santé, le système COVAX, pour pouvoir donc les rendre disponibles. Et nous espérons ici, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, que plus de vaccins seront disponibles. Et puis, donc, pouvoir conjuguer cette disponibilité-là des vaccins, le travail de sensibilisation, d'engagement des communautés, et aussi donc pour réduire cette stigmatisation-là, et donc pour pouvoir avoir donc plus de personnes qui pourraient donc accepter de se faire vacciner. Donc, oui, la situation elle est très difficile. On sait qu'on va passer à travers des mois difficiles, les prochains mois vont être très très difficiles. Par contre, je pense aussi il y a quelques lueurs d'espoir ici, d'accord, à ce qu'on puisse de vaccins. Merci à vous.
D'accord. Alors, docteur Konaté, pourquoi une bonne partie de la population est encore hésitante à prendre les vaccins, même si on a vu dans le reportage de Dili des manifestations en Afrique du Sud, des personnes qui réclament le vaccin? On nous dit qu'au Sénégal, maintenant, il y a une pénurie en cours, en tout cas vers une pénurie, parce qu'il y a plus de gens qui veulent se vacciner, alors que beaucoup étaient hésitants au début.
Voilà, ça c'est une très très bonne question. Je crois que ça c'est un problème systémique qu'il faut voir sur plusieurs dimensions. Et pour moi, l'hésitation à la vaccination, ça se place sur un problème multifactoriel. On parle d'abord de... Il ne faut pas sous-estimer la désinformation sur les réseaux sociaux, si vous vous rappelez.
Absolument.
Bien avant que les vaccins même ne soient encore conçus, on avait déjà une vaste campagne de désinformation. On va commander le monde, on va mettre des petites microchips sous nos corps, on sera téléguidé comme des robots. Il ne faut pas sous-estimer ça, les réseaux sociaux. Deuxièmement, est-ce que la culture du vaccin existe chez nous? La culture de la prévention? Ça, c'est un autre deuxième problème que je vois. Les régions socio-économiques. Souvent, nos populations sont défavorisées et elles n'ont souvent pas le luxe de se permettre peut-être de penser à la prévention. Et même avant le Covid, il y a d'autres maladies aussi auxquelles on fait face en Afrique, auxquelles aussi on a de très très grands déficits pour la prévention. Nous devons tenir compte de ça aussi. Et après aussi, il faut voir, est-ce que les populations africaines ont vraiment senti l'impact des premières vagues? Ils ont vraiment senti l'impact du Covid pour justifier une ruée vers la vaccination. Donc je pense qu'il faut un effort multisectoriel de tous les secteurs de la société en Afrique pour pouvoir essayer de parer à ce problème-là.
D'accord.
Il faut aussi, une autre fois aussi, je pense, il faut aussi essayer de miser le message à l'audience appropriée. Il faut utiliser les leaders d'opinion, les leaders religieux. Le gouvernement doit faire un plus grand effort d'information à la source et aussi information adaptée à la population cible à qui on veut parler.
D'accord.
On
alors,
on peut le faire en rap.
On va aller un peu plus vite.
Il y a beaucoup de secteurs qu'on peut miser pour améliorer ce problème de communication là.
Tout à fait, tout à fait. Alors, avant d'aller aux commentaires Facebook, docteur Mbaga, il y a aussi toute cette controverse sur le vaccin AstraZeneca en Europe, alors que c'est celui qui est vacciné, qui est le plus administré en Afrique, hein, celui fabriqué en Inde. Vous pensez que ça a été un des facteurs qui ont contribué à cette attitude envers les vaccins?
Certaines, non, pas tout de suite, que le docteur Bonatti vient de dire. Ça, c'est, on le décriait déjà depuis les réseaux sociaux, mais ça n'a pas aidé. Ce que je veux dire déjà, la controverse vient déjà du nom AstraZeneca. Il faut savoir que le vaccin COVID Shield, qui est justement la version AstraZeneca fabriquée en Inde et en direction des pays à ressources limitées, n'est justement pas la même version fabriquée en Europe. C'est-à-dire, le lieu de fabrication juste n'est pas le même, et je pense que c'est d'où vient la controverse et l'incompréhension du monde, surtout quand l'Union européenne, il y a quelques jours, n'a pas mis Covid Shield parmi les vaccins acceptés pour ceux qui sont vaccinés, qui veulent passer l'été en Europe. Je pense que le problème n'est pas le vaccin en lui-même, le problème est la coordination entre les instances et les organisations qui gèrent la santé mondiale, c'est-à-dire l'Union européenne et l'OMS. Quand on sait que Covid Shield est un vaccin qui a été déjà homologué par l'OMS depuis février et que l'Union européenne vient comme ça déstabiliser tout le monde, ça cause problème. Et je disais tantôt que ça ne nous aide pas dans la communication à encourager les gens à se vacciner. Et pour finir, nous avons pratiquement perdu et nous allons perdre encore des semaines à expliquer aux gens que ce n'est pas parce que l'Union européenne n'a pas encore homologué ou tous les pays n'ont pas encore fait que ce vaccin n'est pas bon. Donc c'est pas... Le problème, c'est la coordination, les instances qui coordonnent la santé mondiale qui doivent absolument s'atteler à parler le même langage pour que les populations ne soient pas plus confuses.
D'accord, merci beaucoup. Alors voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Hassan Omar Boulalé, depuis Djibouti, nous dit « Les gouvernements africains doivent chercher des solutions adéquates et concrètes pour la population, comme des laboratoires pharmaceutiques efficaces, des financements conséquents et un capital humain instruit. La dépendance vis-à-vis de l'extérieur est un handicap. » François Kalumba à Elisabethville en RDC écrit « Pourquoi se préoccuper beaucoup plus des Africains alors que c'est ailleurs que le virus a fait des records de décès ? Personnellement, je ne connais pas l'existence de ce truc et difficile d'y croire avec des vaccins controversés. » Et puis Archédic Théodore à N'Djamena nous dit « L'Afrique doit être prudente face à la troisième vague de Covid-19 malgré ses victoires sur les deux précédentes. Les mesures barrières doivent être respectées et la prière à Dieu doit être continue. » Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique Washington Forum. Reviens après une courte pause. retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. On va directement au Cameroun, où les autorités sanitaires ont lancé une vaste campagne de vaccination cette semaine et se donnent 5 jours pour faire vacciner le plus grand nombre de personnes contre le Covid-19. La première vague, la première campagne de vaccination a débuté le 11 avril, mais n'a pas attiré grand monde. Le Cameroun se retrouve actuellement avec des doses de vaccins qui pourraient être inutilisables en août prochain. Reportage à Yaoundé, Emmanuel Justin.
Au bas de l'immeuble, d'un quartier populaire à l'ouest de Yaoundé, une équipe du programme élargi de vaccination administre le vaccin contre le Covid-19 aux résidents et personnes de passage.
Nous sommes là depuis environ 4 heures de temps. Et si nous regardons nos registres, nous pouvons dire que les personnes vaccinées vont de 30 à 55 ans. Ceux qui viennent se faire vacciner sont ceux qui, ayant vu le poste de vaccination, s'arrêtent, se font vacciner et puis continuent leur chemin.
Moi, je me suis déjà fait vacciner. Je vous présente ma carte. La voici. Vaccinez-vous. N'ayez pas peur.
Pour cette nouvelle campagne, le maire de la commune du 3e arrondissement de Yaoundé a reçu sa première dose de vaccin au poste de vaccination installé dans les locaux de la mairie. La campagne cible, entre autres, le personnel de santé, dont le taux de couverture vaccinale est de 22%. Sans oublier qu'à peine un tiers des personnes ayant reçu la première dose des vaccins, AstraZeneca ou Sinopharm, ont pris la deuxième entre avril et juin dernier.
Nous avons deux principales stratégies. Nous avons une stratégie fixe pour les équipes qui sont fixes dans les trois principales structures qui ont été retenues, qui sont l'hôpital militaire de Yaoundé, qui sont l'hôpital du district de Folan et puis le centre médical d'arrondissement d'Arala. Hormis ces trois postes fixes, des équipes mobiles sont déployées dans toute la zone, notamment au niveau des marchés, notamment au niveau des chefferies et notamment au niveau des églises, des lieux de rassemblement.
Dans la seule région du centre, on estime à plus d'un million le nombre de personnes concernées par cette nouvelle campagne de vaccination.
Nous avons
des prévisions largement supérieures à la quantité de vaccins disponibles dans cette région.
Nous avons reçu en tout et pour tout 120 000 doses de vaccins. Il est important que les populations comprennent qu'il n'y a pas déjà assez de vaccins et il est important, avant l'arrivée éventuelle d'une troisième vague qui, on le sait, on voit ce qui se passe en RDC, puisse arriver chez nous et que ça trouve quand même un certain nombre de personnes qui sont déjà vaccinées. Avec la quantité déjà consommée, il nous reste globalement 50 000 doses de vaccins, que ce soit le vaccin AstraZeneca ou le vaccin Sinopharm. Et ce qui sera priorisé, l'objectif, c'est vraiment de vacciner, d'utiliser toutes les doses au terme des 5 jours.
Le gouvernement s'est fixé comme objectif de faire vacciner 20%, voire 30% de la population camerounaise contre le Covid-19 avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football en janvier prochain. Emmanuel Junta, pour VOA Afrique, Yaoundé.
Merci beaucoup et je rappelle nos invités. Nous avons de Brazzaville le docteur Tierno Baldé, responsable adjoint de l'intervention d'urgence pour le bureau régional de l'OMS en Afrique dans l'état américain du Maryland, précisément à Chevoli. Le docteur Sona Konaté, médecin épidémiologiste au département de la santé du comté de Prince George. Et à Washington, D.C., la capitale américaine, le docteur Marie Mbaga, spécialiste en santé publique. Alors, nous n'avons pas malheureusement beaucoup de temps. Alors, le docteur Baldé, j'ai envie de vous demander que fait l'OMS pour aider les scientifiques africains et les gouvernements à s'impliquer davantage dans la production de vaccins en Afrique même et dans la recherche scientifique de façon plus générale?
Oui, c'est une très très bonne question. Mais pour aller concrètement, vous savez que récemment il y a eu la mise à l'ouverture, il y a eu l'ouverture donc de ce hub-là au niveau donc de l'Afrique du Sud, avec le support donc de l'OMS et puis du gouvernement français pour pouvoir en tout cas au moins entamer un peu cette production locale par exemple de vaccins. Mais en plus de cela, l'engagement des différents scientifiques, des différentes communautés scientifiques, des universités ici, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis maintenant des décennies. Vous savez, les problématiques de vaccins, les problématiques de santé publique, C'est des choses que nous gérons depuis 10 ans, des décennies avec d'autres maladies telles que Ebola, le choléra et autres. Donc l'engagement, vraiment, les interactions avec la communauté scientifique, elle était déjà là. Maintenant, c'est sûr et certain qu'il faut aller plus de l'avant avec la situation qu'on a vécue avec la COVID-19. Donc pour pouvoir collectivement donc, travailler ensemble avec autant les universités, les facultés de médecine des différents pays, mais aussi donc, d'autres organisations qui sont impliquées dans la recherche scientifique pour pouvoir trouver des solutions plus adaptées au contexte africain ici. Mais c'est un travail qui est en cours. Merci beaucoup.
Alors, docteur Sona Konaté, revenons sur cette question de la confiance des populations. Justement, faut-il que les scientifiques africains soient plus impliqués, plus visibles dans cette lutte contre le COVID-19?
Absolument. Les scientifiques africains, quand vus comme des figures charismatiques, ce sont des gens qui doivent inspirer confiance à la population et surtout, je pense, commencer une campagne continue et consistante d'éducation de la population. Il ne faut pas qu'on prenne la population comme des bébés à qui on donne le biberon, on leur fait gober tout ce qu'il faut et puis après, on prétend que ça soit un phénomène qui vient de soi. Non, il faut prendre le temps, avoir une politique d'éducation, d'information et à la base, avec, comme on dirait, le message adéquat pour chaque population cible à laquelle on veut s'adresser. C'est la seule manière à laquelle on arrivera à un résultat consistant. Donc, on parle des scientifiques, on parle des figures charismatiques, que ce soit religieuses, leaders communautaires, que ce soit des figures qui inspirent confiance à la population, à chacun son idole. Peut-être que les jeunes aimeront plutôt un musicien, peut-être que les personnes âgées aimeront plus un leader religieux. Quoi qu'il arrive, il faut que le message soit transmis à la base et pour que vraiment on leur dise aussi pourquoi ils doivent faire cela.
D'accord. Alors,
prévenir la maladie, prévenir la contamination en cas de maladie, prévenir la sévérité et prévenir la mort. Pour que les gens sachent exactement la raison pour laquelle ils se vaccinent.
D'accord. Docteur Mbaga, certains pays africains comme l'Afrique du Sud, l'Égypte et même le Sénégal veulent se lancer dans la production de vaccins anti-Covid, ces vaccins déjà existants. Pensez-vous que cela peut booster la confiance des populations qu'on dise que ces vaccins ont été produits en Afrique?
Ben écoutez, la problématique du vaccin n'est pas seulement la confiance des populations africaines à la formule chimique. Il y a aussi, vous l'avez vu avec Covid-Shed, c'est l'exemple parfait. Mm-hmm. Si on enlève le brevet, on libéralise le brevet, parce que le même vaccin avec la même formule est fabriqué ailleurs en Inde, l'Union européenne estime qu'ils doivent évaluer pour permettre à ce que ceux qui l'ont eu entrent dans leur pays. Je pense que ça, c'est la plus grande crainte. Il faut une capacité de ces pays à fournir tout le matériel, le supply chain, pour que le vaccin, même s'ils ont la formule avec eux, qu'ils puissent le faire dans des normes qui sont des normes européennes, américaines, parce que ça ne servira absolument à rien d'avoir un vaccin qui ne respecte pas les normes internationales. Et pour cela, je suis content. Le représentant de l'OMS a dit tout à l'heure que l'OMS est en train de travailler avec ces pays-là. Il faudrait.
Merci Marie. Merci Docteur Mbaga. Marie, malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum, un débat très intéressant que nous allons certainement poursuivre très bientôt sur Washington Forum. Je remercie énormément mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires et sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook, et je n'oublie pas bien sûr toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.